Madeleine Barbier est rédactrice en chef de Chine Plus, un tout nouveau magazine trimestriel à destination du monde économique, mais aussi de tous les amoureux de l'Asie et du dragon chinois, sans oublier ceux qui veulent comprendre la société chinoise et ses mutations. Après des débuts en Afrique, Madeleine Barbier s'est tournée vers les entrepreneurs français qui réussissent à l'international, et particulièrement ceux du réseau des conseillers du commerce extérieur de la France, dont la mission est d'aider les entreprises françaises à s'ouvrir à l'international, notamment les PME et les jeunes. Vivant dans un environnement international depuis une vingtaine d'années, elle est par ailleurs responsable de la partie économique des hors-séries Match en Chine et rédactrice en chef de la revue des conseillers du commerce extérieur. On écoute Madeleine Barbier. Madeleine Barbier, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a une vie avant Chine Plus. La vôtre, c'est quoi ?
Ah, ma vie depuis pratiquement les années 80, c'est l'international, les entreprises à l'international, et comme je suis française, les entreprises françaises à l'international. Ça a été d'abord l'Afrique, personnellement, puisque j'y ai vécu un moment, et puis ça a été le monde entier, puisque j'ai commencé à côtoyer des gens qu'on ne connaît très mal sous cet angle-là. Ce sont des entrepreneurs français qui réussissent particulièrement à l'international, des grands, des petits, des moyens, et qui se sont rassemblés, qui font partie d'un réseau qu'on appelle les conseillers du commerce extérieur de la France. Ce sont des privés uniquement, hein. Ce n'est pas le réseau des missions économiques. Et ces gens-là se sont donnés pour mission d'essayer d'aider les Français à s'ouvrir à l'international. Alors, d'aider les entreprises à y aller, notamment les PME, mais d'aider les jeunes à attraper le virus de l'international. Ce qui fait que ces entrepreneurs font des interventions dans les universités, dans les IUT, dans les écoles de commerce, un peu partout. Et moi, je vis dans ce bain-là depuis 20 ans maintenant.
Alors, est-ce que l'Asie vous passionne depuis toujours ?
Depuis toujours, non. Disons que, justement, par ce biais-là, à partir des années 90, moi j'y allais régulièrement, et à partir des années 90, j'ai vraiment vu... À l'époque, il faut se souvenir quand même que les pays de l'ASEAN, si vous voulez, les pays de l'Asie du Sud-Est, étaient, dans lesquels il y avait les tigres, les dragons, étaient des pays très prometteurs, et la Chine ne bougeait pas. Et tout d'un coup... On a vu la Chine exploser carrément. On n'a pas fait attention quand, dans les années 80, Deng Xiaoping a demandé aux Chinois de s'enrichir. On s'est dit, bon, c'est facile à dire. Ce qu'on n'avait pas bien mesuré, c'était la capacité... Ce qu'on n'avait pas bien mesuré, c'était la capacité d'un pays comme la Chine à mettre en musique ses idées. Et là, ils avaient décidé que le retard serait rattrapé, qu'ils appliqueraient les méthodes économiques occidentales, le système économique occidental. Ils l'avaient décidé, ils l'ont fait, et ça donne ce qu'on voit maintenant.
Alors justement, quel regard vous portez sur la Chine d'aujourd'hui ?
Un regard qui essaie de voir plein de choses en même temps. Parce que des choses vont vite, d'autres vont beaucoup moins vite. Hein. Et puis, on ne peut essayer de comprendre... comment les choses fonctionnent que si on replonge dans le passé. Ça, on en est tous là. Hein. On peut comprendre comment l'Europe fonctionne que quand on replonge dans les racines de l'Europe. Mais pour les Chinois, c'est peut-être encore plus vrai et c'est peut-être encore plus important de le faire parce que la rupture de Mao a pu donner l'impression qu'il avait été fait table rase du passé, ce qui est évidemment complètement faux. Donc, c'est une attention pratiquement de tous les instants. Mais c'est absolument passionnant parce que c'est une manière humaine d'évoluer qui n'est pas exactement la nôtre, mais qui est quand même typiquement humaine. Donc on s'y retrouve parfois. Enfin, c'est l'autre sans être l'autre.
Et de ce passé dont Mao n'aurait donc pas fait table rase, il reste quoi ?
Oh, il reste une manière de se situer dans le monde. Ne serait-ce que parce que le feng shui... qu'on a complètement occulté pendant des années, dont les autorités font encore semblant de croire maintenant que ce sont des balivernes, imprègnent l'architecture, imprègnent la manière dont les villes se construisent, imprègnent la manière dont les gens organisent leur intérieur. Hein. On le retrouve partout. Et ça, l'importance accordée au fait d'être à l'endroit où il faut être pour pouvoir bénéficier de tout ce que le monde peut vous apporter de bon, ça, c'est essentiel chez les Chinois, mais ça remonte à la nuit des temps, et ça n'a jamais passé, en définitive. Hein. On a cru que l'homme nouveau n'aurait pas besoin de ça, Et puis on se rend compte qu'il a toujours besoin de ça. Mais il y a bien d'autres choses. Il y a toutes les spiritualités, les philosophies. On parle actuellement, par exemple, du retour du confucianisme. C'est vrai, mais c'est pas seulement ça. Et il est à plein de niveaux, le retour du confucianisme. Il y a un retour d'opérette, j'allais dire, quand on déguise des petits enfants de 4 ans en petit Confucius et tout. Et puis, il y a des retours beaucoup plus sérieux. De toute façon, on vient tous de quelque part. Et pour essayer de se resituer, de se projeter vers l'avant, il faut absolument prendre la mesure, prendre sa mesure et la mesure de ses ancêtres aussi.
Alors pourquoi Chinplush aujourd'hui ?
Ah, bah, Chinplush, c'est un form... c'est une des choses les plus belles qui nous soit arrivée, parce que je dois dire que quand Hachette Filipacchi m'a proposé le projet, je me suis immédiatement retournée vers mes réseaux, enfin les amis avec lesquels je travaille depuis très longtemps, et on ne le croyait pas, parce que c'est une cible tellement petite, a priori, qu'on ne croyait pas qu'un grand groupe s'intéresserait à cette cible-là, la cible des entrepreneurs et, disons, des gens qui sont suffisamment intéressés par la Chine pour apprendre le chinois. C'est en gros les deux pieds sur lesquels on mise. Et à partir du moment où on nous proposait de lancer un magazine sur le sujet, voilà, la ligne de conduite, c'était « ce doit être un magazine économique », ça c'était clair, avec une forte partie culture et éventuellement des voyages. Tout ça, ça nous a paru formidable parce qu'on s'est dit que c'était le meilleur moyen pour faire connaître aux Français qui sont si frileux, qui ont tellement d'a priori sur l'Asie en général et sur la Chine en particulier, d'essayer de les apprivoiser, en fait, au phénomène chinois. Et à partir de là, on s'est tous lancés en essayant de sortir tous nos trésors et de mettre sur la table tout ce qu'on avait de mieux, tous les gens qu'on connaissait. Et du coup, ça fait une équipe complètement atypique.
Alors, dans la malle au trésor de Chinplush, qu'est-ce qu'on trouve qu'on ne trouve pas dans les autres malles ?
Ben, on trouve déjà une volonté très nette, et ça fait des produits différents, de coller à la réalité, de coller au quotidien. De coller, bien sûr, au travail que les gens font, donc aux entreprises, mais de coller à leur vie quotidienne. Et vous verrez que régulièrement, bon, on parle de faits comme les classes moyennes, des choses comme ça, mais on fait des plongées dans des familles qui sont, ou près de gens qui sont des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes, quoi. La jeune fille Bei Yang, par exemple, pour laquelle toute la famille s'est cotisée pour lui trouver les 5000 euros qui vont lui permettre d'aller en Espagne, c'est simplement son histoire. Mais on a eu l'impression que nous, ce qui nous permettait de mieux d'avancer de plus en plus vers une tentative de compréhension des Chinois, parce qu'on ne comprend jamais les gens, c'était ça, c'était des rencontres multipliées, et on voudrait que Chinplush permette aux lecteurs de multiplier les rencontres. Alors ça, c'est du coup, ça nous a obligés à travailler de manière particulière, c'est-à-dire avec des Chinois. Alors avec des Chinois journalistes écrivants, ou avec des Chinois photographes. Et tout ça, ça fait que on est sans arrêt en train de monter des usines à gaz pour réussir à avoir la moelle de tout, quoi. Essayer d'apporter la moelle de ce qu'on ressent, essayer d'apporter des flots de tendresse quand on les ressent, ou au contraire, parfois des flots. Je dirais pas d'arrogance parce que les Chinois sont jamais arrogants. Nous, on sait l'être, les Occidentaux, mais eux. Il y a un devoir d'humilité qui est tel que... Mais ça n'empêche pas un énorme orgueil. Donc on essaie, par petites touches, d'amener tout ça. Et tout ça est sous-tendu par des articles qui retracent le paysage tel qu'il est. Des articles économiques, des articles sociaux, sociétaux. Mais chaque fois qu'on peut s'éloigner de ça, pour repartir au plus près des gens, ben on le fait. Et ça, je pense que c'est ce qui nous identifie le mieux.
Alors, est-ce que vous vous intéressez à ceux qui font la Chine de demain, uniquement, ou aux autres ?
Tous les êtres vivants font leur pays de demain. À partir du moment où on n'est pas mort demain, on participe. Donc, je serais tentée de dire, je m'intéresse qu'aux Chinois qui font la Chine de demain, mais qu'est-ce que vous voulez dire par les autres ?
Je parlais économiquement.
Et alors les autres, ce serait qui ?
Les autres sont ceux qui ne participent pas à cette merveilleuse croissance économique.
Ah, mais je ne pense pas qu'en Chine... c'est pas parce qu'on ne touche pas les dividendes de l'enrichissement qu'on ne participe pas. Et quelque chose de formidable, c'est que quand vous faites des enquêtes à n'importe quel niveau, même dans le village le plus pauvre, même chez les gens qui ont un mu, un tout petit terrain, avec des céréales, le truc, vraiment, où vous crevez de faim à longueur d'année, eh ben, ces gens-là sont persuadés que leurs enfants auront une vie meilleure qu'eux. Et une des raisons pour lesquelles on s'est beaucoup planté en Occident, quand on a vu les différences qu'il y avait, les vitesses auxquelles les uns et les autres s'enrichissaient ou ne s'enrichissaient pas, on se disait, ben, ça va claquer. Et si ça n'a pas claqué, à mon sens, c'est parce qu'on n'a pas eu affaire à un enrichissement derrière des barbelés, à des forteresses qui se seraient enrichies et qui se seraient protégées des autres par des barbelés. On a affaire à un enrichissement en taches d'huile. Alors des fois, quand on est très loin du centre, on n'a, pour ainsi dire, pas d'huile. Mais on peut déjà, on voit la tache d'huile qui arrive et on se dit que peut-être demain, ça va arriver jusqu'à nous. Donc en fait, tous les Chinois, alors ça, c'est peut-être une des rares choses dont je suis totalement persuadée, à quelques exceptions qui peuvent être des gens qui sont politiquement engagés et qui sont tout à fait malheureux de ne pas avoir la liberté qu'ils souhaiteraient avoir ou ces choses-là. Mais en dehors de ces gens-là, je pense les Chinois en général sont vraiment persuadés que demain sera meilleur qu'aujourd'hui.
Alors Pascal a dit « la Chine obscurcie, mais il y a clarté à trouver, cherchez-la ». Quelle Chine cherchez-vous ?
Ah, moi, ce que j'essaie de... Je ne sais pas quelle Chine. J'allais dire toutes les Chines. Il faut reconnaître que pour passer tant de temps à essayer de s'approcher des Chinois, il faut les aimer. Parce que sinon, il y a plein de choses que... Les premières fois que je suis allée en Chine, en dehors des séminaires, puisque tout d'abord, de par mes fonctions, j'allais souvent dans des séminaires et dans des bureaux. Mais quand j'ai commencé à travailler, notamment pour Match en Chine, hein, que le groupe avait déjà lancé, dans la rue et dans les campagnes, là, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver un dimanche de mon enfance. Parce que je viens de la campagne. Donc, l'esprit est encore très rural, même dans les villes. Hein. Il y a une convivialité, une proximité des gens très rurale. Le dimanche, parce que, comme je suis adulte, je fais ce que je veux. Hein. Donc, c'était mes souvenirs d'enfance. Et puis, il y a un amour pour la vie, pour la nourriture, les rigolades entre copains, le fait d'être bien en famille. Tout ça, bon... Ben, je me suis sentie bien déjà, hein. Et ce qui fait qu'à partir de là, j'ai eu envie de mieux connaître. Ce qui fait que d'ailleurs, à un âge déjà avancé, je me suis inscrite à Lanzhou. Lanzhou, régime normal, je vous dis tout de suite, parce que des gens pensaient que j'étais étudiant libre. Non, j'ai passé les partiels, machin, tout ça, ça a été l'horreur. Parce que comment voulez-vous communiquer avec des gens qui évidemment ne parlent pas anglais, si vous faites des gestes? Donc, tout ça a fait que je parle pas, j'ai toujours une interprète ou un interprète avec moi, mais c'est plus souvent des copains que des interprètes professionnels. Mais tous les Chinois m'intéressent. Bon, les gens m'intéressent en général, parce que je suis horriblement curieuse. Hein. Mais eux, peut-être encore plus, parce qu'il y a des moments, j'avais l'impression, et je l'ai toujours, quand on voit des visages, on a, par rapport à nos visages d'occidentaux, ou par rapport aux visages qu'on voit à Hong Kong, on a la même impression que quand on voit des photos de douaneaux par rapport aux enfants qu'on voit en photo dans nos magazines, si vous voulez. C'est un décalage, un vernis qui n'est pas là. Et du coup, cette absence de vernis rend plus péchu. Enfin, j'ai l'impression que le contact est plus... qu'il y a plus de jus.
Il y a une spontanéité.
Oui. Oui, il ne faut pas non plus... Oui, il y a une spontanéité qui n'est qu'une spontanéité de civilisation, quoi, hein, parce que c'est pas un trait de caractère chinois, hein, mais bon, on en est encore au stade où on sait être extrêmement polissé, mais les relations personnelles sont tellement fortes que dès qu'on se sent bien avec les gens, c'est ça qui prime tout. Le policier passe par derrière.
Alors, notre avenir est lié à l'Asie et plus particulièrement à la Chine. Comment la France peut-elle participer à cet Eldorado ?
Ah, je ne dirais pas que c'est un Eldorado. Je dis que le monde, vous parliez de la Chine de demain, je dis que le monde, bien sûr, est en train de se construire. La différence avec il y a 10-15 ans, c'est que ça va beaucoup plus vite. Ne serait-ce que parce qu'on a des outils qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Hein. Internet est un fabuleux outil. Et du coup, le monde de demain se construit à toute vitesse. Ceux qui sont les plus nombreux, les plus travailleurs,
les plus accrocheurs, parce qu'on dirait qu'ils ont faim, vraiment, hein, ils ont faim de réussite, faim de retrouver une place qu'ils avaient avant et qu'ils ont perdu pendant quelques siècles, enfin depuis la révolution industrielle, c'est tout, hein, c'est ça qui a marqué le déclin de la Chine. Donc ceux qui ont le plus envie de faire sont ceux qui vont influencer plus fort le monde de demain. Il ne tient qu'à nous d'avoir autant envie de faire. Parce que nous, on a un avantage quand même sur la Chine d'aujourd'hui, les Chinois d'aujourd'hui, c'est qu'on a des habitudes, on a des technologies, des habitudes de travail, des process, des technologies, des habitudes de gestion d'entreprise qu'ils n'ont pas encore. On a des hommes qui sont formés, qui n'ont pas encore, qui sont en train de nous demander de former parfois. Hein. Il y a des choses très intéressantes qui se passent, où les Français jouent un rôle spécial, parce que la France a un rôle spécial pour les Chinois dans ce domaine-là. Soit le plan social ou le plan de l'éducation, ils considèrent que la France a un rôle spécial à jouer. Donc, nous, on a un rôle à jouer. Et si on restait dans notre coin, ce serait criminel, parce qu'on raterait ces vagues qui sont en train de se constituer, qui vont déferler sur le monde, mais des vagues bienfaisantes, c'est pas des tsunamis, hein. C'est des vagues qui vont amener du progrès, qui vont amener des nouvelles manières de faire, qui vont amener des nouvelles manières de se comporter entre nous. Et si nous, on n'essaie pas de voir comment on peut se situer, ce qu'on peut apporter dans ce nouveau process, ben, effectivement, on restera sur le bord. Alors, si on reste sur le bord, je ne sais pas si les autres s'en rendront compte. Parce que quand les gens courent vite, ils oublient ceux qui restent sur le bord. Sauf que nous, ben, on sera là. Mais je ne peux pas y croire, ce n'est pas pensable. L'Europe a trop de connaissances, de technologies, de savoir-faire à utiliser pour se mutiler comme ça. Ça me semble complètement impensable. Là, on a simplement un petit moment d'étourdissement. Nous, les Français, beaucoup plus que, par exemple, les Allemands, qui sont très présents en Chine et en Asie. Il faut passer ce petit moment d'étourdissement. Il faut se dire que c'est pas parce qu'on a été très flamboyant pendant une période qu'on doit être flamboyant à vie. On mérite sa flamboyance. On peut redevenir aussi flamboyant et se maintenir. Mais tout ça, ça demande beaucoup de travail et ça demande une envie de faire.
Alors vous diriez aux Français, n'ayez pas peur, allez en Chine ?
Oui, il faut faire très attention parce que la Chine n'est pas une zone facile pour y travailler. Aucun pays en développement n'est facile. Aucun pays émergent n'est facile. Mais la Chine l'est peut-être encore moins que les autres. Et toutes les opérations qui promettent 100 nouvelles PME en Chine peuvent s'avérer des opérations extrêmement ruineuses pour les PME si elles y croient réellement et si elles investissent comme ça. En règle générale, elles ne le font pas. Elles se contentent d'y aller, de voyager, et puis elles reviennent. Et d'après les échos que j'en ai, les opérations de l'année dernière n'ont pas donné lieu à beaucoup d'installations. Mais j'allais dire, c'est mieux comme ça. Parce qu'il ne faut pas qu'une PME mette son existence en France en danger pour essayer d'avoir un marché qui n'a pas été bien calculé en fonction de son produit et de ses capacités.
Et cette croissance, vous pensez qu'elle va continuer ?
Elle peut pas continuer à ce rythme-là, ça c'est clair. Maintenant, on peut pas prévoir quel rythme elle aura. Bon, ce qui est sûr, parce qu'on a affaire à un pays particulier, on a affaire à un pays qui gouvernait. Enfin, il y a un pilote dans l'avion réellement. Et il y a énormément d'argent, les réserves sont énormes, donc il y a la possibilité de soutenir les volontés politiques. Et il est évident que jusqu'en 2008, le pays continuera à croître à peu près à ce rythme-là. D'ailleurs, on voit bien qu'ils ne peuvent pas ralentir la croissance même s'ils le veulent. 2010, de toute façon, ce sera l'exposition universelle de Shanghai. Et quoi qu'il arrive, les choses continueront sur ce rythme-là. Après, on ne peut pas prévoir le rythme. Après, c'est comme la vie de tous les pays. Il peut y avoir des chocs économiques. Tous les pays en sont là.
Alors, Pékin a dit aux Chinois « go west ». Est-ce que la France devrait dire « go east » ?
Ah oui, mais pas uniquement la France. Vous savez, c'est difficile de parler de la France en tant que France face à une zone comme l'Asie et face à un pays comme la Chine. Hein, l'Europe, de toute façon, on doit vivre à l'échelle de l'Europe. Enfin, tout nous pousse, on est de la même famille. Donc, que l'Europe aille vers l'Est, ça me semble absolument évident, puisque le centre de gravité du monde est en train de migrer autour, dans le Pacifique. Vous allez avoir, d'ici quelques années, les trois premiers pays du monde, trois premières économies du monde qui vont être autour du Pacifique. Les États-Unis, qui sont encore premiers pour un bon bout de temps, la Chine, le Japon. Bon, à partir de là, plus avec comme arrière-cour, comme on parlait des Amériques latines comme l'arrière-cour des États-Unis, comme arrière-cour les pays d'Asie, jusqu'à l'Australie en bas. Bon, ça fait un ensemble absolument fantastique, quoi. Il est évident que ce centre de gravité va générer un monde dont nous devons absolument être partie prenante.
Alors, est-ce que vous ne pensez pas que l'hypercapitalisme chinois va avec un grand risque de déstabilisation sociale ?
Oh, oui, je sais pas. L'hypercapitalisme, c'est peut-être ça. Enfin, c'est un mot générique qui recouvre plein de réalités. Tout ce qu'il y a de sûr, c'est qu'un pays qui change, dont l'économie change de nature et dont les différentes couches de la société changent à cette vitesse-là, c'est évident que ça se fait avec de la casse, quoi. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si, après la course galopante des années qui sont passées, les dirigeants actuellement cherchent l'harmonie, hein, et les cinq harmonies, c'est ce qui est mis en avant par la politique actuelle. Et c'est évident, c'est ce dont la Chine a le plus besoin actuellement. Ça fait partie de sa culture. Et c'est ce qui est mis le plus à mal actuellement, ça c'est sûr. Maintenant, le moyen de faire autrement, le moyen de rattraper les retards économiques, sociaux, accumulés quand même au cours de toutes ces années où la Chine n'était peut-être pas en sommeil, mais disons marchait beaucoup moins vite que maintenant, après toute la période Mao, le rattrapage, ça se fait avec des bouleversements, hein. Il y a des bouleversements et sans arrêt. Le tout est de savoir s'ils vont réussir à mettre suffisamment de liant, à être suffisamment plastique pour qu'il n'y ait pas trop de ruptures. Moi, je pense que la plasticité des Chinois est surtout assurée par d'abord leur conscience d'appartenir à un seul et même peuple. Ça, on est Chinois. On est chinois même si on a vécu deux générations en dehors de Chine. On est toujours chinois. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis l'énorme envie de retrouver sa place. Et ça, c'est une sacrée dynamique.
Est-ce que vous pensez qu'ils vivent simplement une révolution industrielle, comme a vécu l'Europe il y a deux siècles, ou quelque chose de plus ?
Bah, de toute façon, simplement une révolution industrielle, comme on a vécu, c'était pas simplement une révolution industrielle, en définitive, parce que ça nous a transformés, ça a engendré des modes de vie différents, donc ça n'est jamais simplement quelque chose d'économique. Donc il y a toujours quelque chose de plus. Et eux, il y a quand même une autre dimension, c'est que il y a quelque chose qu'on trouve d'ailleurs beaucoup dans l'art actuel chinois, c'est ce sentiment de rupture. Il y a des écoles de photographes chinois, qui réussissent très bien, d'ailleurs dont les codes sont très fortes un peu dans le monde entier, qui ont basé tous leurs travaux sur la rupture. Parce que c'est vrai que Mao a représenté une vraie rupture, et l'arrivée du libéralisme, enfin d'une forme de libéralisme, de l'économie capitaliste, dirons-nous, a représenté une autre rupture. Et c'est pas facile en si peu de temps quand même, en un demi-siècle, de subir deux ruptures comme ça. Et des ruptures qui venaient après une période d'humiliation. Donc c'est particulier. Cela étant dit, tous les peuples vivent des ruptures, tous les peuples vivent des humiliations. On n'est pas exempt, hein. La guerre de 70 avait été une terrible humiliation pour la France. Bon, on peut compter sur l'énergie des gens pour essayer de s'en sortir, mais ça se fait pas en douceur, ça c'est certain.